Ulysse et ses hommes dérivent sur les mers depuis qu'ils ont été chassés par Éole, le maître des vents. Le courage et l'espoir les ont quittés. Ils subissent toujours la fureur du dieu Poséidon, bien décidé à venger son fils, Polyphème le cyclope, qu'ils ont aveuglé. Pendant qu'Ulysse subit le courroux des dieux, son trône, à Ithaque, reste désespérément vide. Pourtant, la plupart des héros sont rentrés de la guerre de Troie. Du moins, ceux que les combats ont épargnés. Agamemnon, Ménélas, le vieux Nestor. Agamemnon vient d'être assassiné par sa femme Clytemnestre et son cousin Égiste lors d'un grand banquet, le soir même de son retour. Cette nouvelle a terrifié toute la Grèce, mais elle n'est pas encore parvenue jusqu'à la lointaine île d'Ithaque, jusqu'aux oreilles de celle qui, jour et nuit, prie pour le retour de son mari, Pénélope. Depuis de longues années, Pénélope est sans nouvelles d'Ulysse. Elle sait que la guerre de Troie a duré 10 ans. Mais elle sait aussi que des lunes et des lunes se sont écoulées depuis le retour des guerriers et qu'Ulysse est toujours absent. Depuis quelque temps déjà, la rumeur court qu'il est mort, qu'il a péri sur la route du retour ou qu'une tempête a brisé ses vaisseaux et les a emportés au fond des mers. Pénélope, pourtant, espère encore. Au point qu'elle tient tête à tous ces jeunes gens qui se sont établis depuis peu au palais et entendent l'épouser. On les appelle les prétendants. Ils sont jeunes, tous issus de la noblesse d'Ithaque ou des îles voisines. Ce sont les enfants des fidèles sujets d'Ulysse. Ils paradent dans la cour du palais, jouent, dansent, festoient et lancent des paris sur celui qui, un jour, aura les faveurs de Pénélope. Il faut, disent-ils en chœur, que Pénélope se remarie, pour son bien. Mais leurs bons propos cachent de mauvais desseins. Car si tous brûlent de coucher dans le lit de Pénélope, chacun rêve de posséder le royaume d'Ithaque. Du haut de ses 12 ans, Télémaque l'a bien compris. Le fils qu'Ulysse a laissé à Ithaque dès sa naissance voit chaque jour avec quelle agressive arrogance les prétendants flambent de gras cochons, dépouillent les chèvres, vident les meilleurs vins. Il sait que ces hommes rongent ses biens en attendant qu'un jour leurs épées ruinent son corps. Pour l'heure, il est bien incapable de leur résister. Mais dans quelques années, il aura le courage et la force de les chasser du palais de son père. Pénélope subit chaque jour davantage les assauts des prétendants. Il la presse de décider qui, parmi eux, deviendra son époux. La reine n'ose refuser ses noces. Alors, avec l'aide d'une vieille nourrice, celle qui vit grandir Ulysse et éleva Télémaque, fidèle entre les fidèles, elle imagine un stratagème. Pour égarer les prétendants, elle enflamme chacun et promet à tous. Mais elle exige surtout qu'il lui laisse le temps de tisser un linceul pour le père d'Ulysse, le vieux Laërte, pour le jour où celui-ci rejoindra le royaume des ombres. Laërte est l'ancien roi d'Ithaque. Il y a bien longtemps, las de gouverner, il a cédé son trône à son fils, Ulysse. En son absence, cependant, et à contre-cœur, il a accepté de reprendre les rênes du pouvoir. Mais depuis que la guerre de Troie est finie, il a une nouvelle fois abandonné le trône. usé par des années d'angoisse et de fatigue, Laerte a perdu tout intérêt pour la vie de palais. Il vit désormais dans une simple hutte. Misérable, loin du monde, il se laisse mourir. Seule Pénélope s'inquiète de son sort. Prends soin de lui, qui ne désire qu'une seule chose, rejoindre son fils disparu. On dit Pénélope remarquable dans l'art de tisser. Sa renommée est grande dans toute la Grèce. Alors, montrant le linceul aux motifs compliqués qui représentent des scènes de la vie passée et des exploits des dieux et des demi-dieux, elle déclare à tous les prétendants qu'il serait impie de ne pas doter le vénérable vieillard d'un suaire somptueux, dans l'hypothèse où il viendrait à mourir. Dès qu'elle aura terminé, elle désignera son futur époux, mais pas avant. Rassurés, les prétendants accordent à Pénélope ce qu'elle demande et retournent à leur banquet. Pénélope, elle, regagne sa chambre. Elle s'approche d'une fenêtre et fixe un point invisible. Et si vraiment Ulysse était mort ? À peine cette pensée a-t-elle effleuré son esprit qu'elle la chasse. Non, Ulysse va revenir. Ses doigts caressent le linceul et son visage s'éclaire. La solution est entre ses mains. Lentement, elle défait les mailles une à une. Et c'est ainsi que désormais ses jours se passent à tisser l'ample voile et ses nuits à défaire l'ouvrage à la lumière des torches. Éole a peut-être dit vrai. Ulysse est maudit. Depuis qu'ils ont été chassés par le maître des vents qui leur avait offert le moyen de rentrer chez eux, cet outre, renfermant tous les vents de l'univers, le héros mille ruses et ses hommes affrontent tempête sur tempête. L'île sur laquelle ils viennent de s'échouer une nouvelle fois leur est totalement inconnue. Ulysse scrute longuement le paysage. Devant eux se dresse une épaisse forêt et au sommet d'une colline, une maison en pierre polie. Ils y trouveront peut-être de quoi se ravitailler. Ulysse donne ses ordres. Ils vont se séparer en deux groupes. Eurylope prendra la tête du premier et partira chercher des vivres dans ce village. Ulysse les attendra sur la plage avec le reste de l'équipage. Mais pour la première fois, Eurylope, le raisonnable Eurylope, s'oppose à son chef. Il n'en est pas question. Depuis qu'ils ont quitté Troie, le malheur s'est abattu sur leur tête. Personne ne sait quelle créature vit là-haut et ce qu'elle pourrait, une fois de plus, leur faire endurer. Polytès, l'autre capitaine d'Ulysse, approuve. Ulysse le sent, la révolte gronde. Dans ce cas, propose-t-il, que l'on tire au sort. Eurylope accepte. Mais le tirage au sort lui est contraire. Résigné, il fait signe à politesse et, suivi d'une dizaine de marins, il s'engouffre dans la forêt. Le petit groupe entre dans le village. Il est désert. On n'entend pas un bruit. Politesse se dirige vers la maison. C'est une superbe demeure, sans doute celle d'un noble. Mais une meute de loups encercle les marins et rend toute fuite impossible. Les crocs menaçants, les muscles bandés, les loups sont prêts à bondir. C'est alors que se produit un phénomène des plus étranges. Au lieu d'attaquer les hommes, les loups leur font la fête. Ils se montrent tout à coup aussi dociles que les chiens cherchant la caresse de leur maître. Stupéfait, l'équipage n'ose plus faire un pas. C'est Politesse qui, prenant son courage à deux mains, retourne vers la porte et cette fois n'hésite pas à frapper. La femme qui apparaît sur le seuil est la plus belle qu'il ait jamais vue. Sa chevelure brune descend jusqu'à sa taille. Ses yeux en amande dégagent des reflets dorés. Son visage est parfait. Elle se présente. Son nom est Circé. Subjugués, les marins suivent Circé dans sa demeure. Sauf un, Eurylochë. Il se cache derrière un arbre. Le souvenir du cyclope est encore frais dans sa mémoire. Et cette femme, si belle soit-elle, ne lui inspire aucune confiance. Il observe la scène. Circé fait asseoir les marins sur de magnifiques sièges ciselés d'or et d'argent. Puis, dans des coupes enchâssées de rubis et d'émeraudes, elle leur sert un vin qu'elle leur présente comme le meilleur de toute la Grèce. Aucun d'entre eux n'imagine le sort qui les attend. Alors qu'ils vident leur coupe, Circé prononce des mots dans une langue que nul ne comprend. Le résultat est aussi inattendu que stupéfiant. Les fiers guerriers, les marins et soldats d'Ulysse ne sont plus des hommes à présent. Ce sont des porcs, des pourceaux. Les voilà qui se tiennent à quatre pattes, remuent la queue, fouillent le sol de leurs groins. Circé, dans un grand éclat de rire, expulse les pourceaux hors de sa demeure. Elle les parque dans un enclos. Puis elle leur jette des glands et des faines pour le seul plaisir de les voir se disputer la nourriture. Eurylochë, tapis derrière son arbre, n'a rien perdu de la scène. Il trouve la force de s'arracher à sa torpeur et, en hâte, retourne au bateau. En larmes, encore plein de stupeur, il fait à Ulysse le récit des événements. Circé. Ulysse connaît ce nom.